dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 3 et 4, si Dieu toque à votre porte, si Dieu veut un changement dans votre vie, il faut bien vous rendre compte qu'il va remettre ça, chaque fois, un peu plus fort, un peu plus fort. Quand je vous dis que toutes ces personnes-là sont venues comme ça me dire, je ne cédais pas, ma femme a fait de la dépression, je devais le jeudi arrêter à 10h du matin et l'accompagner dans les petits villages de France, prendre une couverture, elle dormait là toute la journée, elle était à bout, elle était à plat et je voyais que j'allais perdre tout. Si je perdais ma femme dans sa santé, son équilibre, et je perdais aussi les enfants ou l'entreprise, ou les deux. Je perdais tout et je me suis remis à lire la Bible pendant qu'elle dormait, pendant qu'elle était épuisée. Puis après, on a été à Orval. Orval, il nous accueillait gentiment. Il ne nous faisait rien payer. On avait une chambre et on avait deux lits séparés, une double chambre. Et elle pouvait se reposer et moi, j'allais promener. Et un moine m'a dit, je lui dis, je commence à mettre ma vie en ordre. Le père Gaëtan, il m'a dit, tu sais, Jean pas un semblant d'ordre, tout en ordre. Il vit toujours, il est très âgé. Vous voyez, ce qui a été déterminant, bien sûr, c'est la rencontre aussi avec Jim Dieu, un pasteur évangélique, en disant, mais tu as toujours été poussé dans le dos par Satan, hein, et tu penses servir Dieu, il t'a poussé dans le dos, va de l'avant, va de l'avant, va de l'avant, tu es tombé sur ta figure. Et pour finir, tu ne le sers plus du tout. Alors c'est fini. Tu dois marcher derrière le Seigneur Jésus et marcher par ses forces. Et Jim Dieu, on aurait pu dire, c'est un évangélique. Et alors les autres, les catholiques. Vous voyez, Dieu s'est servi de tout le monde et pour quand il veut dire quelque chose. Dieu prend les moyens qu'il faut, il les connaît, il les choisit et il faut faire attention. La question que vous devez vous poser toujours au matin ou régulièrement, suis-je dans la volonté de mon Père des cieux? Tout ce que je fais, que je pense qui est bon, c'est peut-être pas ça qu'il me demande. Et comment le saurais-je? Il faut le dire à Dieu. Je ne sais pas si je suis dans le bon chemin. Je ne suis pas certain. Je me suis convaincu moi-même que c'est ça que je dois faire. Je me suis persuadé que c'est ça, mais Seigneur, dis, si tu n'es pas d'accord, fais-moi le savoir. Il faut avoir cette honnêteté de dire au Seigneur, tu dois être le souverain de ma vie, et peut-être que je me trompe, ou certainement que je me trompe. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Dans le chapitre 2 de Samuel, hein, le deuxième livre de Samuel, chapitre 2, David va habiter à Hébron. Vous regardez au verset 1, il habite à Hébron et il a évidemment plusieurs femmes. Bon, les pauvres hommes qui considèrent toujours qu'ils ont besoin d'un tas de femmes... Hein? À Hébron, 6 femmes. 6 femmes, 6 garçons, mais il y a des filles aussi. Vous imaginez? Donc il a multiplié les problèmes dans sa vie. Il a multiplié les problèmes dans sa vie. Il s'y est embourbé. Hein? Parce que 2 de ses fils ont voulu l'assassiner et prendre sa place comme roi. Absalom et Adonija. Puis un autre, Amon, voyant qu'Absalom avait profité de sa sœur, oui c'est ça, non, il a voulu assassiner, c'est pas Absalom, c'est l'inverse.
C'est Absalom qui a tué...
C'est Absalom qui a tué Amon, parce qu'Amon avait profité de sa sœur, et pratiquement c'est grave, parce qu'il y a réellement, dans les familles comme ça, où il y a plusieurs papas, et plus, ou plusieurs mamans, souvent tout se mélange Les enfants ont des mœurs un peu bizarres, il y a des conflits qui se mêlent, qui se mélangent. Rappelez-vous toujours ce que Dieu a dit à un homme et une femme. Rappelez-vous toujours, un homme et une femme. Je ne pense pas qu'on soit capable de porter un fardeau de plus que ça. C'est de la présomption de croire qu'on est capable de porter un autre fardeau que ça. C'est déjà un fardeau de vivre à deux. C'est un fardeau, il faut le vivre avec la force du Seigneur. Mais alors là, si on prétend qu'on va résoudre le problème en ayant une cavalerie, hein, ben ça c'est faux. Deuxième livre de Samuel, chapitre 2, donc il est à Hébron, David y monta avec ses deux femmes, et puis bien sûr il y en aura des autres, et il est là, mais il y a bien sûr d'autres choses qui se passent. Hein. Qui est sympathisant de David? Uniquement la tribu de Juda. Qui sont les autres tribus? Les onze. Les onze suivent un chef qui s'appelle Abner. Abner, c'était le fidèle officier de toutes les armées de Saül. Saül est mort, les Philistins l'ont tué, et Abner est convaincu que c'est un fils de Saül qui doit être le roi, et pas David. Donc il ne cède pas. Pourtant, il sait que le prophète Gath et le prophète Nathan ont prophétisé et que c'est David. Et il sait ça, Abner, mais il s'y refuse. Pourquoi? Parce qu'il est attaché à son ancien maître, attaché à la famille de son maître, et il ne veut pas. Alors, regardons le verset 8. Abner, fils de Ner, chef de l'armée de Saül, prit Ish-Bosheth, fils de Saül, et le fit passer à Mahanaïm. Il établit roi sur Galaad, etc. Et sur toutes les tribus. Verset 10, Ish-Bosheth, fils de Saül, était âgé de 40 ans lorsqu'il devint roi d'Israël, et il régna 2 ans, il n'eut que la maison de Juda qui resta attachée à David. Donc, ça n'a pas été comme on idéalise, hein. Une petite tribu avec David, 11 tribus avec les descendants de Saül. Le temps pendant lequel David régna à Hébron sur la maison de Juda fut de 7 ans et 6 mois. Abner, fils de Ner, et les gens d'Ish-Bosheth, fils de Saül, sortirent de Mahanaïm pour marcher sur Gabaon. Donc, ils mettent tous leurs hommes en bataille face à une seule tribu. Joab, fils de Tseruja, et les gens de David, Joab, c'est le chef d'armée de David pour la tribu de Juda, se mirent aussi en marche. Ils se rencontrèrent près de l'étang de Gabaon, s'arrêtèrent les uns en deçà de l'étang, les autres au-delà. Donc on peut visiter cet endroit-là, hein, évidemment, quand on va là-bas. Bon, ça va être une grande bagarre, et en fait, c'est la tribu de Juda qui va gagner. Et dans le combat, quand ça tourne mal, il y a un des fils de Joab qui s'appelle Azaël, les 3 fils d'ailleurs, courent après Abner pour le tuer, l'éliminer. Et le plus rapide, le plus léger, le plus sportif, si vous voulez, vigoureux, c'est Azaël. Et il arrive tout près de, pour fendre de sa lance Abner. Abner est un homme de guerre, plus expérimenté que ce jeune-là. Il lui dit, arrête, retourne, va-t'en, je ne veux pas te tuer. Mais l'autre veut absolument la bagarre et Abner le tue. Azaël est tué et évidemment, ça va créer plus tard un problème encore bien plus grave. Mais il s'est passé quelque chose, c'est que Joab... Abner, il y a des choses qui se passent dans leur conscience. Verset 26, Abner appela Joab et lui dit, l'épée dévorera-t-elle toujours? Est-ce qu'on va faire la guerre jusqu'au bout, il ne restera rien, hein? Ne sais-tu pas qu'il y aura de l'amertume à la fin? De l'amertume dans tous les cœurs, dans toutes les âmes, et ça ne sera plus le peuple de Dieu, comme Dieu le veut. Jusqu'à quand tarderas-tu à dire au peuple de ne plus poursuivre ses frères? Donc Abner, qui avait voulu la bagarre, qui était majoritaire, qui avait plus de soldats, finit par dire à Joab qu'il faut arrêter le carnage, Et il ne faut plus poursuivre les hommes des 11 tribus. Et il les appelle ses frères. Il reconnaît qu'il y a un lien. Il reconnaît là qu'il y a un lien. Joab répondit au verset 27, « Dieu est vivant. Si tu n'eusses parlé, le peuple n'aurait pas cessé avant le matin de poursuivre ses frères. » Donc, ça aurait été au finish, hein, nettoyé. Hein, tout le monde. Joab sonna de la trompette et tout le monde s'arrêta. Ils ne poursuivirent plus Israël et ils ne continuèrent pas à se battre. Donc, chacun rentre dans son coin. Hein, et évidemment, quels sont les résultats au niveau des morts? Verset 30, Joab revint de la poursuite d'Abner, rassembla tout le peuple. Il manquait 19 hommes des gens de David et Azaël. Donc il manque 20 personnes. C'est assez spécial. Et pensez que Judas, il y a des prophéties sur le lion de Judas. Il faut faire attention à qui se heurte à cette tribu-là. Hein. Ah oui, il faut faire attention. La main de Dieu est sur cette tribu-là. Hein. Dans le livre des Nombres, etc. Et puis, rappelez-vous, Jésus est appelé le lion de Judas. Il vient de Judas, de cette tribu-là. Mais les gens de David avaient frappé à mort 360 hommes parmi ceux de Benjamin et d'Abner. Donc, toutes les autres tribus, on pourrait dire les 11, qui classiquement au nord sont hostiles au sud, il y avait aussi la tribu de Benjamin qui souvent était avec la tribu de Judas. Mais Benjamin s'était rangé du côté d'Abner. C'était très grave. Ils emportèrent Azaël et l'enterrèrent dans le sépulcre de son père à Bethléem. Joab et ses gens marchèrent toute la nuit et le jour paraissait quand ils furent à Hébron. Donc qu'est-ce que va faire David pour honorer un jour son ennemi qui va être tué, Abner, il le fera enterrer. Plus tard, Abner sera tué. Et il va le faire par Joab. Joab va le prendre en traîtrise, il va venger son fils Azaël, il va l'enterrer à Hébron, tout près du tombeau d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, Rachel. Il veut que Israël ait un esprit d'unité sous le regard des patriarches et des promesses divines faites aux patriarches. Donc David a une vision de l'histoire d'Israël assez profonde. Donc au chapitre 3, la guerre dura longtemps entre la maison de Saül et la maison de David. Malgré qu'il y a eu un cessez-le-feu, comme on dirait, malgré que ça s'est calmé, ben, le feu a repris. Il y a, vous savez, je me rappelle, j'avais mis le feu une fois dans un champ, moi il y avait de l'herbe. Eh bien, ça avait gagné la sapinière, ça allait en dessous des épines, et c'était dans la sapinière sous les épines. Et mes parents, enquêtant, se sont rendus compte qu'il y avait quelque chose. Ils voyaient de la fumée dans la sapinière, et ils ont été voir, ils ont gratté avec les fourches et ils voyaient le feu sous les épines dans la sapinière. Il a fallu gratter tout le sol dans la sapinière et tirer tout ce feu qui couvait, qui à un moment donné s'embrasait et faire. Et le mettre, tirer. Et moi j'étais un gamin comme Élie, qui quand il passait quelque chose dans la tête, il le faisait. Et pratiquement, je me rappellerai toujours que un feu dévorant n'est pas toujours visible. Un feu dévorant, et le jour qu'il se met en route, il est trop tard. Il est trop tard pour l'arrêter. Et c'est le feu dévorant, le feu comme ça, pensez aux passions des hommes, pensez aux haines, aux amertumes, pensez à tout ce qui est semé, hein, dans les familles et tout ça, c'est des feux dévorants invisibles, et puis tout d'un coup... Et dans les peuples aussi. Alors, au chapitre 3, vous voyez, la guerre continue. Le feu dévorant reprend à certains moments. Hein, il sort tout d'un coup, boum, pas moyen d'arrêter ça. Et vous avez ici, bien sûr, tous les noms des femmes avec des fils. Et vous avez, dans les premiers versets du chapitre 3, on n'a pas mis les filles, mais il y en a. Ça faisait quand même un monde, hein. Alors, pourquoi est-ce que je prends ça? C'est parce que Abner, tout compte fait, n'a pas le dessus, vraiment. Pendant la guerre, c'est de plus en plus David qui prend le dessus. Et alors, regardez, pendant la guerre, entre la maison de Saül, verset 6, 3 verset 6, et la maison de David, Abner était infirme pour la maison de Saül. Or, Saül avait une concubine nommée Rizpa, fille d'Aja, et Ishbochet, donc c'est un fils de Saül, qui est vivant, dit Abner, pourquoi es-tu venu vers la concubine de mon père? Pourquoi as-tu pris une des femmes de mon père pour coucher avec? Et il était donc en droit de lui dire, il était le roi. Mais non, Abner est quelqu'un de très coléreux, de très fort dans son caractère, et de vite irritable. Abner fut très irrité des paroles d'Ishbochet et répondit, « Suis-je une tête de chien qui tienne pour Judas? Je fais aujourd'hui preuve de bienveillance envers la maison de Saül, ton père, envers ses frères, ses amis. Je ne t'ai pas livré entre les mains de David, et c'est aujourd'hui que tu me reproches une faute avec cette femme. » Il ne supporte pas qu'on le fustigue, qu'on lui reproche quelque chose, qu'on lui montre un péché. Il ne supporte pas Abner. Il ne supporte pas ça. Et l'autre a fait une gaffe monstrueuse, parce que c'est son soutien principal. Il a fait une gaffe monstrueuse. C'est pour ça que je vous dis, le feu qui couve et qui explose, n'oubliez jamais ça. Que Dieu traite Abner dans toute sa rigueur, si je n'agis pas avec David, selon ce que l'Éternel a juré à David. En disant qu'il ferait passer la royauté de la maison de Saül dans la sienne, qu'il établirait le trône de David sur Israël, sur Juda, depuis Dan jusqu'à Beersheba. Dan, bon, pays de Golan, actuellement, même plus loin. Ishbochet n'osa pas répliquer un seul mot à Abner. Il a vu que c'était, ça y est, hein, ça vient de casser, quoi. Il n'a plus moyen de rattraper ce qu'il a dit. Abner envoya des messagers à David, verset 12, pour lui dire de sa part, « À qui est le pays? Fais alliance avec moi, et voici, ma main t'aidera pour tourner vers toi tout Israël. » Il répondit, « Bien, je ferai alliance avec toi, mais je te demande une chose, c'est que tu ne vois pas ma face, à moins que tu n'amènes d'abord Michal, fille de Saül, en venant près de moi. » Donc, Michal était resté avec, du côté des tribus du Nord, or c'était la première femme de David, celle que Saül lui avait donnée.
Et enlevée.
Et enlevée, oui. Et pratiquement, c'est pas très marrant cette histoire-là, mais je vous verrai où je veux en venir. Ishbochet la fit prendre chez son mari Paltiel, fils de Laïch, et son mari la suivit en pleurant jusqu'à Bachurim. Alors Abner lui dit, va-t'en, retourne. Et il s'en retourna. Abner eut un entretien avec les anciens d'Israël et leur dit, vous désiriez autrefois d'avoir David pour roi, établissez-le maintenant, car l'Éternel a dit de lui, c'est par David mon serviteur que je délivrerai mon peuple d'Israël de la main des Philistins et de la main de tous ses ennemis. Abner parla aussi à Benjamin et l'alla rapporter aux oreilles de David, à Hébron, ce qu'avait résolu Israël et toute la maison de Benjamin. Qu'est-ce qu'il vient de dire au verset 18? Il vient de dire ce qu'il savait depuis toujours. Il savait que Dieu avait choisi David comme roi, et maintenant il l'accepte, parce qu'il est vexé, irrité contre Ishbochet, il est tellement courroucé, il accepte la prophétie de Dieu, et il accepte le plan de Dieu. Vous vous rendez compte à quel point Dieu peut utiliser le péché de quelqu'un pour faire son plan? Dieu utilise le caractère coléreux et revanchard de Abner vis-à-vis d'Ishbochet, qui l'a humilié, et il va accomplir, il va obéir aux prophéties, il va reconnaître David comme roi pour tout Israël, et il va amener toutes les tribus. Pensez à Joseph. Joseph a été méprisé par ses frères et sœurs, il est parti en Égypte comme esclave, et est devenu le grand chancelier, hein, de toutes les affaires de Pharaon, et puis tout d'un coup, voilà des misérables qui arrivent pour avoir à manger, et c'était les frères de Joseph. Bien sûr, ils ne l'avaient pas reconnu. Et bien sûr, il fait venir le papa, il fait venir le petit frère aussi, hein, le dernier, le fils de Rachel qui était là-bas, hein, son vrai frère à lui, hein, qui s'appelle
Benjamin.
Benjamin. Et toute la famille est là. Et Il a des moments de colère terribles. Il ne sait pas s'il va les couper en quatre ou quoi. Il va pleurer autre part. Vous voyez, lui, il a un combat en lui, Joseph, et il va, pour finir, céder. Et il va un jour avouer à ses frères, quand le papa est mort, Jacob, que tout le mal qu'ils ont fait, Dieu l'a changé en bien pour sauver Israël. Joseph va dire lui-même à ses frères que tout le mal qu'ils lui ont fait était dans le plan de Dieu et que Israël était sauvé grâce à ce péché-là. Cette horreur d'avoir vendu Joseph aux Ismaélites, aux Arabes, comme esclave. Et puis les Arabes l'avaient revendu aux Égyptiens. Donc, le péché, parfois, nous conduit à des endroits et dans des situations épouvantables, et malgré tout, Dieu rattrape. Rattrape et ramène dans son plan les hommes. N'oubliez jamais ça. Qui est finalement le maître? C'est Dieu. C'est ça qu'il faut reconnaître. Et ici, chez Abner, c'est ça qui s'est passé. Abner a donc été un exemple de quelqu'un qui a changé d'avis, non pas par amour pour Dieu, par amour de la prophétie, simplement à cause de son péché. Il s'est incliné devant les prophéties. Alors pensons à la fin des temps, quand Jésus revient, tout genou fléchira, combien d'hommes et de femmes vont s'incliner devant Jésus? Non pas parce qu'ils ont aimé la vérité, non pas parce qu'ils aiment Jésus, non pas parce qu'ils aiment la Bible et les prophéties qu'ils ont dedans. Ils vont s'incliner parce que Dieu a l'autorité de leur faire plier le genou. Ils vont plier le genou et ils vont reconnaître Jésus comme le roi, le Christ. Philippiens chapitre 2, tout genou fléchira. Et c'est aussi dans Ésaïe. Il n'est pas possible que vous doutiez, et moi aussi, de la puissance de Dieu pour changer une situation. Dieu peut changer une situation et faire plier des genoux à des gens que vous pensez qu'ils ne changeraient jamais. Si vous ne croyez pas à la puissance de Dieu, vous n'aurez jamais, jamais des signes de la puissance de Dieu. Si vous priez et que vous croyez dans la grandeur de Dieu, il faut lui dire et le montrer dans la prière. C'est ça les requêtes de supplication, d'action de grâce que vous avez vu avec Vincent tout à l'heure, que nous avons vu. Il faut absolument dire à Dieu ce qu'il est. Est-ce que je crois de lui? Vous demandez peu parce que vous recevez peu, a dit Jésus. Mais si vous dites beaucoup à Dieu, vous le reconnaissez pour ce qu'il est. Ne vous étonnez pas, vous voyez des surprises et des grands changements qui vous échappent. Ils ne sont pas de mon ressort, de votre ressort. Voilà ce que je veux dire avec la situation qui s'est passée là. Et au chapitre 5, regardez bien. Toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David à Hébron et dirent : voici, nous sommes tes os et ta chair. Un peu comme Adam et Ève, hein, au moment où la femme est criée : os de mes os, chair de ma chair, vous avez vu, hein, c'est le même mot. Autrefois, déjà, lorsque Saül était notre roi, c'était toi qui conduisais et qui ramenais Israël. L'Éternel t'a dit : tu paîtras mon peuple d'Israël, tu seras le chef d'Israël. Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron. Le roi David fit alliance avec eux à Hébron devant l'Éternel. C'est pas une alliance politique de partis politiques comme en France ou en Belgique. C'est devant l'Éternel. Une responsabilité d'unité devant Dieu. C'est ça qui manque dans nos peuples ici. C'est pour ça que ça déglingue tout le temps. Le grand absent de tous les débats, c'est Dieu. Le grand débat, sans Dieu, n'est jamais qu'un gouffre. Alors, ils font alliance devant Dieu. Regardez bien. Et ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi Hébron. Le roi David fit alliance avec eux à Hébron, devant l'Éternel. Ils oignirent David pour roi sur Israël. David était âgé de 30 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 40 ans. À Hébron, il régna sur Juda 7 ans et 6 mois. À Jérusalem, il régna 33 ans, surtout Israël et Juda. Voilà un retournement de situation où on se met tous, qu'on râle ou qu'on ne râle pas, qu'on était d'accord, qu'on était l'un contre l'autre, on se met tous en alliance devant Dieu. Pensez à la fin, quand Jésus revient, ça ne sera pas différent. Ça ne sera pas différent. Pourquoi est-ce que je dis ça? Si nous pensons différemment, nous nous opposons à Dieu. Romains, chapitre 2. Si nous pensons différemment, nous nous opposons à la toute-puissance et à la miséricorde de Dieu et au plan souverain de Dieu. Si nous voulons rester butés, ce n'est pas possible. Non, ces gens-là, moi, j'en veux pas. Je veux être au ciel avec eux. Je veux pas être au paradis avec eux. Non, non, dans le royaume de Christ, avec ceux-là, j'en ai fait assez, etc. Je vous ai provoqué une fois, il y a plusieurs années, en disant, à la fin de la guerre de 40-45, si Hitler arrivait en guenille comme un estropié, là, à moitié vêtu et tout, et qu'il demandait de loger, je dis, viens manger à table. Va te laver, là, des essuies et tout. Pourquoi? Réfléchissez bien. Et lisez ce texte. Peut-être qu'Hitler après m'assassiner, ou peut-être qu'Hitler se convertissait, peu importe. C'est pas le but, moi, de savoir après ce qu'il y a. C'est de faire la volonté de Dieu. C'est pas le but, moi, de savoir ce qui va se passer après. C'est de mettre les choses dans les mains de Dieu, comme Dieu les demande. Romains 2. Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, donc les autres, et qui les condamnent, tu es donc inexcusable. Car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais la même chose. Je vous ai toujours dit qu'une main visée sur quelqu'un, un doigt sur un être, un doigt contre Dieu, trois contre moi. Je vous ai déjà dit le cas d'une dame qui a vécu ici, qui a été à l'église pendant 3 ans, elle est à Bruxelles maintenant, elle était réfugiée au centre, elle est africaine, elle avait perdu 9 personnes, elle avait été violée, elle avait le sida, elle avait la tuberculose, elle avait toutes sortes de choses, de misère, de diabète aussi. Et pratiquement, dans sa foi, elle, ici progressivement, et au centre, elle est toujours vivante. Ces maladies n'ont pas d'autorité sur elle. Mais quand elle l'a été dans son pays, au tribunal à Kigali, et que le juge a absous la douzaine de gars qui avaient violé et tué dans sa famille, hein, il y en avait 3-4 de son coin. À la sortie du tribunal, elle, il y a quelqu'un du village qui avait une voiture qu'il avait prise. Elle les a invités à monter dans la voiture. Ils n'avaient rien pour retourner à 200 km. À venir dans la voiture et les déposer chez eux. Elle les a invités à venir au culte. Ils se sont assis au culte à côté d'elle. Ok? Là, le genre de vrai chrétien, hein, je vous le dis, moi. Les rallonges à mettre, hein, nous tous ici, en Europe. Les rallonges à mettre, hein. Ça ne m'étonne pas que le sida est parti, que le diabète ne l'a pas tué, ni la tuberculose, ça ne m'étonne pas. Car dans son obéissance, elle s'est confiée totalement à Dieu, dans ce qu'il demandait, de ne pas condamner ses bourreaux. Ne pas condamner ses bourreaux. Est-ce que Jésus a condamné les bourreaux quand il était sur la croix, et les brigands? Non. Pour finir, le dur de dur qui en avait déjà assassiné des centaines, le centurion dit, celui-ci est le fils de Dieu. Dieu a gagné une brute épaisse au salut. Et un des deux brigands, Jésus gagne les âmes les plus tordues. C'est pour ça qu'il faut savoir, ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Si je juge quelqu'un, c'est que je le veux, je veux en enfer. Donc je suis aussi un enfant des ténèbres. Je suis aussi un enfant des ténèbres. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Donc Dieu un jour nous jugera tous à notre mort quand il nous voit, mais il sait si j'ai été un homme de miséricorde, un homme qui avait la foi en lui et qui a prié pour ses ennemis, qui a tendu la main, qui a tendu la joue quand on avait frappé sur l'autre, qui a fait 200 mètres avec quelqu'un quand lui demandait de faire 100 mètres. C'est ça, c'est Matthieu 5 à 7. Ces trois chapitres-là, ça, c'est le retournement du comportement et de l'âme. Penses-tu, homme, qui juge ceux qui commettent de telles choses qu'il est fait, que tu échapperas au jugement de Dieu? Méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa longanimité, miséricorde, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère, de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres. Alors, j'ai été frappé que Abner va être tué par Joab, traîtreusement, va être enterré tout près des tombeaux des patriarches. Et j'ai vu la façon dont David pouvait se situer dans une situation si difficile. David a été conduit par Dieu, a totalement pardonné des années de guerre contre Saül, où Saül lui a fait un mal fou, et a pardonné à Abner, qui lui a fait un mal fou pendant des années. Il était capable d'être miséricordieux. Ça, c'est l'homme de Dieu, même s'il a des défauts. Même si cet homme a des défauts, David, son point faible, c'était sans doute les femmes, oui. Mais il avait cette miséricorde. Et il a cru dans la puissance de la miséricorde. Pour lui, vous vous rappelez le psaume 32 ? Le psaume 32. Toute la théologie de la grâce est déjà à l'œuvre dans la vie de David. Naturellement, en Christ, c'est grandiose. Psaume 32. Je ne peux pas lire tous les psaumes, mais là, avec cette Jean qui ne va pas, toute la nuit, je suis obligé, là. Après 4 heures de nuit, allez, il y a 3 heures, je ne peux pas rester couché, rien. Et après, je vais redormir 1h30 dans le divan. Mais je lis, je réfléchis à tout ça. Et je me dis, mais moi aussi, je rencontre des gens qui m'ont fait des vacheries. Moi aussi. Comment je vais lâcher ça? Comment je vais lâcher? Il faut confesser son péché à Dieu. Le psaume 32. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas son iniquité, dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, donc je ne me mettais pas devant Dieu pour me montrer comme j'étais, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. Donc, mes os se consumaient. Un os, ça ne brûle pas. Quand vous incinérez quelqu'un, on brûle la chair, tout le bazar, le cercueil, mais les os, c'est pas du bois, c'est pas du carbone, ça ne brûle pas. Après, mais ça, c'est, on ne l'entend pas quand on est dans la salle, il y a une machine qui broie tout en miettes, en poussière, les os. Mais ils sont extrêmement durs. Ils sont encore plus durs quand ils sont passés dans le feu. Donc, l'os ne brûle pas. Donc ici, quand l'os se consume, ça veut dire quoi? Je souffre dans mes os. Je souffre dans mes os, dans mon être. Et je suis encore vivant, je souffre là-dedans. Pourquoi? Parce qu'il y a des péchés, sans doute, en moi, qui sont là, et je ne veux pas les voir. je peux vous dire que, Seigneur, c'est une grâce que de souffrir, tu vas m'ouvrir les yeux sur quelque chose que je ne vois pas dans ma vie. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. Car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Écoutez bien, on en rencontre beaucoup. Pensez bien à la Sainte Seine. Ne la prenez pas indignement, parce qu'il y a beaucoup de malades parmi vous. Mais c'est ça, parce que nous sommes persuadés d'être en ordre avec Dieu. Je prends la Sainte Seine. Mais en fait, il y a des choses, mais vraiment, mais Dieu n'est pas d'accord avec.
Mais on ne peut jamais l'apprendre alors.
Quoi ?
On ne peut jamais l'apprendre alors.
Il faut arrêter de courir, arrêter de s'affairer. Affairisme égale affaire du diable. Il faut se mettre en silence dans la prière. En silence. Pourquoi ? Seigneur, enseigne-moi. Seigneur, enseigne-moi. Seigneur, je vais prendre des heures dans ta parole. Tu vas m'enseigner. Pas cinq minutes de temps en temps. Pas quand le pasteur arrive.
C'est ça.
C'est foutu. Par contre,
vous avez le pasteur de domicile.
Alors. La misère des églises, c'est de ne pas être des heures dans la Bible. Des heures. Je n'ai pas dit des minutes. Alors, au psaume 32, je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. À un moment donné, ça se dévoile. Hein? Parce que Jésus l'a dit dans Jean au chapitre 6, celui qui fait la vérité vient à la lumière. Il commence à voir clair. Celui qui fait la vérité vient à la lumière. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Et continuons à tout ça, verset 8, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Verset 10, beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie à l'Éternel est environné de sa grâce. Juste, réjouissez-vous à l'Éternel, soyez dans l'allégresse. Le psaume-là, il faut le lire toute sa vie régulièrement. Régulièrement, il faut y retourner. Parce que Paul le prend comme un texte de base dans le traité de la grâce, en Romains chapitre 9. Alors, David a été humilié par Dieu et a accepté d'être humilié. Et il a été un roi pour tout Israël. Hein ? Rappelons-nous, Abner a été humilié profondément, mais pas par amour de la vérité. Et puis après, il a accepté la vérité, les prophéties sur David. Maintenant, un virage qui s'exécute chez quelqu'un, chez un chrétien qui est orgueilleux, chez un chrétien qui est têtu, chez un chrétien qui n'aime pas la parole de Dieu, il ne fait que la prendre sur le bout des lèvres, hein, mais qui se dit chrétien, qui a été baptisé, tout ça. Un virage est-il possible ? Oui, il est possible. Oui, il est possible. La gloire de Dieu est tellement grande qu'il est possible que ce chrétien revienne à Christ et s'humilie et soit humilié aussi. Soit humilié par Dieu. Psaume 119, tu n'as point de mépris des os que tu brisas. Avant que tu m'aies humilié, je m'égarais. Il m'est bon d'être humilié, dit David, psaume 119. Donc, regardez bien, David, c'est un champion quand même au niveau spirituel. Même si c'est attendu parfois avec des autres trucs. Mais c'est aussi notre cas. Il y a des trucs tordus aussi. Alors, la gloire de Dieu, c'est de se servir. De quoi ? Du bien et du mal qu'il y a en nous. Et de se glorifier lui-même. Dieu veut mettre sa gloire sur nous. Dans nous. Il ne nous laissera pas tranquilles. Nous qui avons été appelés, qui avons répondu, il ne nous laissera pas tranquilles. Tous nos péchés doivent être déblayés. Un chrétien n'est pas fait pour être tranquille, il est fait pour être sanctifié. Dieu veut réaliser son plan, souvent malgré les chrétiens. C'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Les hommes, y compris moi, ne saisissent pas toujours la pensée de Dieu. Et ils n'imaginent pas la puissance de Dieu qui peut m'arrêter. Il m'obligeait à être remis en question. La puissance de Dieu et son immense miséricorde à mon égard vont ensemble. Il n'a pas une puissance pour me détruire. Il a une puissance pour détruire mon péché, c'est différent. Mais il a une miséricorde infinie pour me donner la vie. Ok ? Ça, c'est le grand artiste, Dieu. Hein ? La chenille, la chrysalide, hein ? Là, il y a une espèce d'enveloppe. J'ai fait des cours de bio et tout ça pour enseigner. J'en ai personne, même les plus calés, n'ont pu m'expliquer ce qui se passait là-dedans. Il passe dessus. Et puis après, il y a le papillon. Comment nous, avec ce qu'on est là maintenant, nous, chrétiens, hein, comme on est, hein, il ne faut pas dire qu'il y a des bons côtés, des mauvais côtés chez chacun d'entre nous, et on vit ensemble. Eh bien, comment c'est, à un moment donné, on est mis en chrysalide et transformé pour être dans la gloire de Christ. On est mis en chrysalide. Tout nous échappe. Le changement que Dieu veut faire en nous, nous échappe. Or, nous sommes dans une pensée européenne où on pense que tout passe par notre agir, tout passe par notre oui, tout passe par nos décisions, ou celles de l'Église. Bon. Oui, nos décisions sont utiles. Évidemment, elles sont utiles. Le brigand sur la croix. Quand vous regardez les évangiles, hein, dans Luc, vous voyez que Jésus lui dit « Aujourd'hui, tu seras dans mon paradis. » Parce que cet homme l'a reconnu comme juste, le Fils de Dieu. D'autres pas. Mais si vous regardez dans Marc et Matthieu, vous voyez qu'ils insultent tous les deux Jésus. Alors, à quel moment il y en a un des deux qui change ? Ben, j'ai un peu épluché ça. À midi, donc de 9h à midi, tous les deux insultent Jésus. À midi, il y en a un qui change. Ça y est, la chrysalide est arrivée. Fini la chenille. Il va mourir sur la croix, et puis, quelques temps après, il est au paradis. Vive le papillon. Le brigand sur la croix a eu la grâce de connaître l'état de la chenille et l'état de la chrysalide. Pour connaître l'état du papillon. À Capernaum, quand Jésus a guéri des malades, a chassé des démons, hein, et qu'il a prêché, personne quasiment ne s'est converti. Deux, trois, dans ses disciples, que Jean-Baptiste avait préparé, hein, sur le Jourdain. Mais sur Capernaum, quasiment pas. Rien. Un gros zéro. Quand Jésus dit, les gens de Ninive et de Sodome et Gomorre, au moment du jugement, seront moins sévèrement jugés que vous, Capernaum, Chorosaïn, etc. J'ai visité Chorosaïn sur une montagne. Hein. On voit encore la synagogue. Hein. Elle est faite dans la pierre de volcan noir. C'est inusable, cette pierre-là. On voit encore toute la synagogue sur la colline. De là, on voit à 50, 60 km tout alentour, au moins. C'est grandiose. Et inusable, cette pierre de synagogue. Comment ils ont taillé ça ? Avec des lettres en hébreu et tout. Et pratiquement, ils n'ont pas voulu Jésus. Il a fait des miracles, il a prêché, il a chassé des démons. Et alors, on a envoyé Jonas à Ninive, ils sont repentis. On l'aurait envoyé à Sodome et Gomorre, ils seraient repentis. Et ici, c'est le Fils de Dieu qui vient, vous ne repentissez pas. Alors, c'est quand même assez aberrant. C'est pour ça que Jésus dit, faites attention comment vous me recevez, faites attention comment vous écoutez ma parole, faites attention comment vraiment vous allez passer de l'état de chenille à celui de chrysalide et de papillon. Seul moi peut vous changer, seul moi peut vous changer. Quand je vous dis, viens et suis-moi, c'est pas parce que vous me suivez que vous allez changer, c'est moi qui vous changerai. Alors, quand vous prenez le cas de tous les apôtres, c'était la même chose. Le cas de Saul de Tarse. Quand Saul de Tarse est converti, qu'il est sur le chemin de Damas, il est aveugle, Ananias met les mains sur lui, prie pour lui, pourtant il avait peur hein, de ce gaillard-là, Ananias. Mais il y va, il obéit à Dieu. Qu'est-ce que fait Saul ? Il va prêcher l'évangile 3 ans en Arabie, chez les Arabes. Et pourquoi ? Ben parce que c'est mis, le psaume 87, c'est mis que ces peuples-là adoreront Dieu à Jérusalem. Dans Ésaïe, chapitre 18 et 19 aussi, c'est mis. Alors, les plans de Dieu sont irréversibles. Tout de suite, il attrape Paul, il l'envoie là. Où c'est déjà prophétisé ? 8 siècles avant. 10 siècles avant. Les plans de Dieu sont irréversibles. Et l'apôtre Paul, pourquoi il ne va pas à Jérusalem ? Parce que les autres, là, en le voyant arriver, on dit, « Eh oh, ils nous persécutaient, ils nous tuaient, nous, on ferme les portes. Hein. » Il vient seulement 3 ans après leur serrer la pince. Et puis après, est-ce qu'il va servir Dieu avec eux ? Non ! Il retourne à Tarse, où il est né, il est grandi, parce qu'ils n'en veulent pas. C'est un homme de Crète, qui plus tard va les chercher, Barnabas, hein, un juif qui habitait sur l'île de Chypre ou de Crète, et qui a été cherché. Et c'est lui qui l'a amené à Antioche, même pas à Jérusalem, à Antioche, pour servir Dieu. Donc, pourquoi ? Le temps qu'il a été en Arabie, le temps qu'il a été humilié par les apôtres qu'il ne voulait pas, parce que, hein, pareil, hein, et le temps qu'il va chez lui 3 ans, ça fait 6-7 ans. 6-7 ans après la conversion. Tout seul avec son Seigneur, que le Seigneur ne lui a pas donné de succès, il lui a donné des humiliations. Des humiliations. Et il a envoyé le petit Joseph Barnabas pour, allez viens, pour l'encourager. Le grand caïd qui a besoin d'un petit Joseph Barnabas. Et pratiquement, après il va servir Dieu. Si Saul, devenu Paul, a été humilié à ce point-là, et qu'après, même dans la 2e Corinthiens, il a les yeux purulents, il a comme les crises de tremblement, comme l'épilepsie, pendant 3 ans il fait. Comment se fait-il que nous ne serions pas humiliés dans notre vie chrétienne ? Si Dieu a un plan de sanctification, de transformation, on passe par des moments d'humiliation, mais vraiment, très dur, très difficile. Et la clé, c'est de dire merci. La clé, c'est de rendre grâce. On ne dit pas merci, on s'enfonce encore plus dans le trou. Je me rappelle, je l'avais enseigné ici, et à un moment donné, j'avais 2 béquilles, ils n'en pouvaient plus. Jour et nuit. Et je me rappelle avoir été à Annette, aligné en barrois avec elle. C'était horrible. J'étais dans la pelouse, je n'ai même pas été avec les chrétiens, je pleurais toute la journée dans l'herbe derrière un buisson. Et pratiquement, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'il faut dire ? Je rencontre notre Jackie, qui est ici présent, qui me dit, mais rends grâce à Dieu, tu nous l'as toujours appris. Moi qui l'avais appris, c'est Jackie qui me fait un son. Ben oui, ben je l'ai fait. J'étais dans le lit. Vous savez, pendant 5 secondes, rends grâce. Oh là là, au bout de 5 secondes, c'était quand même fini, j'avais compris. Tête de lard, hein, tête de lard. Voilà, tête de lard, c'est toujours comme ça, les têtes de lard. Moi j'en suis, je ne sais pas si vous en êtes, peut-être de l'art, c'est comme ça. Il faut bien se dire que si nous ne laissons pas Dieu nous transformer, nous ne serons pas dans sa gloire. Mes chers amis, il faut faire attention. Et ce n'est pas toujours nous qui avons la clé pour nous transformer nous-mêmes, mais il y a une grande grâce, il faut bien savoir. La transformation est beaucoup moins douloureuse. L'accouchement est sans douleur. Je pense que la bonne péridurale pour faire tous les accouchements, nos sanctifications, c'est de lire la parole de Dieu régulièrement. La lire, prendre le temps, arrêter la TV, arrêter tout le bazar. Et s'il y a trop de bazar là où on est dans la maison, s'enfuir dans un autre coin. S'enfuir. Ou alors lire sa Bible quand tous les autres dorment. Mais il faut être tout seul avec le Seigneur. Et dire, voici Seigneur, me voici, parle à ton serviteur. Et vous savez la clé dans une église, c'est qu'à tour à tour, un est en bas, l'autre est au-dessus. Ça fait comme ça, des yo-yo, hein ? Ben, moi, à ce moment-là, pour rendre gloire, rendre grâce à Dieu, avec ces trucs-là, avec Vicky, je n'avais pas envie, hein. Quand Jackie me le dit, j'ai dit oui, il a raison. Il n'y a que ça. Paul dit, rendez grâce en toutes circonstances. Alors, dans Romains chapitre 4, dans Romains chapitre 4, verset 13. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité. Pas par la loi. Je fais ci, je fais ça, j'obéis à Dieu et tout. Même un chrétien peut tomber dans une forme de loi. Je fais tout ce que je dois. Donc je suis juste, hein. Ça peut arriver, hein. Suivant les tempéraments qu'on a, vous savez. Ou un autre, je ne fais jamais ce que Dieu me demande. Mais il est obsédé parce que Dieu lui demande, il est sous la loi et il en est malheureux. Qu'on soit malheureux sous la loi ou qu'on soit vaniteux sous la loi, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, Romains chapitre 4, verset 13. Ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité, c'est par la justice de la foi. Qu'est-ce que c'est? Mais vraiment, qu'est-ce que ça veut dire ça? Parce que c'est des mots, ça glisse, ça passe. Quand j'ai foi en Jésus, il est mort pour moi, et que je suis là tout seul, là, je lis la Bible, je suis tout seul en train de prier, que je sois bien portant ou mal portant. Et puis Seigneur, je découvre, purée, si je devais recommencer ma vie, pas faire toutes les conneries que j'ai faites là. Et purée, les trois quarts, c'est du temps perdu. Qu'est-ce que j'ai foutu? Prends pitié, Seigneur, prends pitié. À un moment donné, si vraiment un jour vous avez donné votre vie à Jésus, Jésus va vous dire dans votre cœur, mais je t'aime. Tu es toujours avec moi. Ne regarde pas tes fautes, ne regarde pas tes péchés. Regarde au pardon que je t'ai donné. Je t'ai donné le pardon. Je t'ai donné ma justice. J'ai mis mes mains sur toi. Je t'ai pardonné, je t'ai déclaré juste. Ne sois pas obsédé par tes péchés, par tes misères, par tes désobéissances. Oui, reconnais-les. Tu m'honores, tu me glorifies en les reconnaissant. Mais ne sois pas obsédé, n'en sois pas esclave. Parce que maintenant tu es esclave de ma justice. Je t'ai pardonné. Tu es lié à moi par le pardon que je t'ai donné. Par la justice, je t'ai déclaré juste. Tu es lié à moi. Tu es esclave de la justice. Tu n'es plus esclave de la culpabilité et esclave des dérèglements. Car si les héritiers le sont par la loi, ce verset suivant, la foi est vaine et la promesse faite à Abraham est anéantie. Ok. Verset 14. Commence à devenir un petit peu... Ça manque de lumière ici, hein. Vous ne croyez pas? Verset 16, ça dépend de l'âge qu'on a. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, hein? Pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute sa postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, donc les juifs, mais aussi à celle qui est à la foi d'Abraham, notre père à tous. Nous avons tous une promesse d'une grâce, d'une miséricorde. Et en même temps, dans sa grâce, si Dieu nous pardonne, il faut savoir l'histoire de la chenille, de la chrysalide, du papillon. Non seulement la grâce, non seulement la miséricorde, mais la puissance de la grâce, la puissance de la miséricorde qui fait de moi quelqu'un semblable à Jésus un jour. Première épître de Jean. Et j'en finis là aujourd'hui. Parce que si nous fêtons Noël bientôt, c'est Noël de la grâce, de la vie en Christ. Hein. Premier épître de Jean, chapitre 3. Voyez, quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, c'est-à-dire dévoilé. Mais on l'est vraiment, hein. Ce n'est pas encore dévoilé. Mais nous savons que lorsque cela sera dévoilé, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Nous serons semblables à lui. La chenille n'a pas la puissance de faire la chrysalide. La chrysalide n'a pas la puissance de faire le papillon. Dans la région de Tom, ici, à Saint-Jean-du-Gard, et tout ça, là, c'était le ver à soie. Hein? Pour faire la soie. Avant que les textiles synthétiques arrivent. Le ver à soie. Donc, toute la région, il y a des ateliers de ver à soie. Et alors, ils ont des arbres, hein, qu'on appelle les mûriers. Pas les petits mûriers d'ici, hein, c'est des riquiquis ici. Hein. Là-haut, c'est des gros troncs énormes avec des branches et des branches. On coupait tous les ans, on mettait ça dans des bacs. Et toutes les maisons avaient un étage supérieur très aéré avec des toits débordants. Et dans les grands bacs, on amenait des chenilles hein, de Chine et elles mangeaient tout ça. Et puis à un moment donné, elles faisaient un cocon. Mais c'était une grosse chrysalide alors. Et avant que le papillon ne sorte, et il fallait vraiment qu'il soit doué pour ça, ils observaient la grosseur. Et puis à un moment donné, il fallait tuer. Le truc qui était dedans, le papillon qui allait sortir, parce que le papillon pour sortir, il dévore le fil, il casse le fil. Tandis que si le fil n'est pas troué et tout, eh bien on le déroulait, ça faisait un ou deux ou trois kilomètres le fil. Rendez compte, alentour. Rendez compte ce fil très fin, la longueur qu'il faisait. Oui, la soie c'est ça, c'est le travail de la chrysalide. Alors, vous allez me dire, la chrysalide. C'est pour ça. Je pense à la puissance de la grâce. La chrysalide, on a l'impression qu'elle fout rien. Qu'elle fiche rien. C'est la chenille qui bougeait. C'est le papillon qui bouge. Et la chrysalide. Elle avait un ou deux ou trois kilomètres d'un fil d'une nature incroyable. De qualité extrême. Alors, nous, sur cette terre, à partir du moment où on a été pardonné par Jésus, dans la grâce, au moment où vraiment j'ai demandé pardon pour mes péchés, j'ai déclaré juste, la chenille c'est fini. La chrysalide c'est ça. Maintenant je suis en train de tresser mon fil. Qui me sortira du fil et du cocon? Le Seigneur qui me donnera la gloire. Que fera le Seigneur avec ce fil? Apocalypse, chapitre 19. Tout est grâce en Christ. Tout est grâce. Apocalypse, chapitre 19. Verset 6. J'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, comme un bruit de fort tonnerre, disant Alléluia. Donc vous imaginez, vous mettez, je ne sais pas, 10, 15 millions de Jean-Louis, Mélisse, un côté de l'autre, quand ils font Alléluia, vous rendez compte de bazar. Hein? Car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant, hein, le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Son épouse s'est préparée, la chenille, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur. Le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Alors, pendant que nous sommes sur terre, pendant que nous vivons, pendant que nous, en tant que chenille, on se demande où on va, parce que des fois, c'est pas terrible, hein, notre vie chrétienne, il faut quand même se rendre compte que Dieu tisse, prépare, et nous faisons le fil. Et Dieu fait la tunique. Dieu fait la tunique de gloire. Il n'y a rien de hasard dans la vie d'un chrétien. Rien. Il n'y a rien qui échappe au plan de Dieu dans nos vies. Laissons-nous faire. Et prenons du temps dans la parole de Dieu, dans la méditation. Arrêtons ce temps qui court pour rien. Plus on avance, plus on dirait qu'on a toujours besoin de faire quelque chose, d'être accaparé par quelque chose. Mais non, c'est pas vrai. La chenille, apparemment, ne bouge pas. Elle tisse son fil. Seigneur notre Dieu, merci pour ta grâce miséricordieuse de faire de nous des enfants glorieux. Nous avons été appelés, nous avons répondu, tu nous as justifiés. Et maintenant, Seigneur, tu nous sanctifies et nous serons glorifiés. Seigneur, le temps de la chenille se terminera un jour. Le vêtement de gloire nous sera donné et tissé par toi. Et nous aurons, Seigneur, toute la joie d'être parfaitement saints en Jésus-Christ. Seigneur, donne-nous du courage dans cette vie, donne-nous de la persévérance et apprends-nous à parler aux autres d'une si belle destinée, une si belle gloire, une si belle miséricorde, une si grande puissance de ta part. Dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Est-ce que deux ou trois personnes veulent prier pour terminer ?